Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a attendu ce jour toute la semaine. Ça y est, c'est le week-end. On est samedi matin et nous voilà bien. Commence enfin. Je vous espère en forme. En tout cas, nous, on est heureux de vous accompagner de 9h15 à 10h sur RTL. Place au sommaire. Chaque année, les Français sont très nombreux à faire des dons à des associations. Alors comment savoir ce que devient l'argent envoyé et comment marchent les réductions d'impôts? Vous saurez tout grâce à Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Plus que jamais, l'aération de nos logements est un facteur de lutte contre la propagation de la Covid. Alors comment purifier l'air intérieur de nos maisons et de nos appartements? Tous les conseils d'Hugo Delcourt, spécialiste du traitement de l'air. Bien pratiques, ils sont en général mangés sur le pouce. Alors comment préparer d'inoubliables sandwichs maison? Tous les trucs et astuces au temps du pique-nique avec Sonia Esguillon, cuisinière, auteure et journaliste.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
De l'amour d'Enrico Macias. Alors ça, écoutez ça tous les matins parce que ça va vous donner une pêche de dingue. En tout cas, moi, c'est mon traitement contre la morosité et c'est quotidien. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste au service éco et conso de cette première radio privée de France. Merci d'être avec nous. On vous retrouve d'ailleurs tous les samedis matins. Vous avez votre carte de membre dans cette émission. On va parler aujourd'hui des dons. Et en matière de dons, les Français sont-ils généreux?
Ah oui, les Français sont philanthropes. Hein. On donne pas mal. 7,5 milliards d'euros en une année. 3 milliards d'euros de la part des entreprises et 4,5 milliards de la part des particuliers. Et dans ces 4,5 milliards, il y a 1 milliard d'euros de legs, donations et assurances-vie. Cette part-là augmente beaucoup. C'est de plus en plus répandu de donner une partie de son héritage à une cause. En moyenne, un Français sur deux déclare faire un don au moins une fois dans l'année.
Quel est le profil des donateurs?
Alors, France Générosité, qui regroupe les grandes associations, que ce soit dans l'éducation, l'environnement, la santé, la recherche, a dressé le portrait robot des donateurs. Ce sont plutôt des femmes de plus de 50 ans qui ont bac plus 3 ou plus et qui déclarent souvent avoir une pratique religieuse. Et l'âge moyen des donateurs et des donatrices, c'est 65-70 ans. Mais cette pyramide des âges pose un problème aux associations parce qu'il y a beaucoup moins de donateurs chez les jeunes. Et il y a une vraie différence entre les plus jeunes et les plus âgés. C'est le CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie qu'il a analysé. Les plus âgés s'investissent dans une cause sur le long terme. C'est un engagement lié à des valeurs ou à un projet qui a toujours été important pour eux tout au long de la vie. Là où les plus jeunes sont beaucoup plus mus par des sentiments et une forme de passion sur le moment, il va y avoir un problème à l'autre bout du monde qui va marquer leurs esprits. Ils vont donner à ce moment-là, via les réseaux sociaux, via des cagnottes en ligne. Mais il y a moins de dons dans la durée. Ils ne vont pas s'inscrire dans un don qui va être renouvelé et prélevé automatiquement chaque mois ou chaque année sur un compte.
La crise sanitaire, est-ce qu'elle a eu un impact sur le don des Français, Armelle?
Oui, et justement, la crise sanitaire a attiré de nouveaux donateurs, y compris les plus jeunes. Au premier semestre de l'année dernière, il y a eu un élan de solidarité. Les dons ont bondi de 22%. Et on connaîtra bientôt la collecte du deuxième semestre. En attendant les chiffres consolidés, on a le déclaratif. Selon l'Observatoire des générosités des apprentis d'Auteuil, en 2020, les Français disent avoir donné en moyenne 400 euros aux associations. C'est 100 euros de plus que d'habitude. C'est une moyenne parce que la moitié déclare avoir donné moins de 100 euros. Un tiers entre 100 et 500 euros et 14% plus de 500 euros, c'est même 2500 euros pour les plus aisés en moyenne.
Et puis au-delà du montant, en fait, on voit que les dons n'ont pas été affectés comme d'habitude.
C'est vrai. Lors du premier confinement, les trois causes plébiscitées ont été en numéro 1 la recherche et notamment les dons pour les vaccins.
Logique.
La santé, en particulier la prise en charge des malades. Et en troisième position, l'aide aux plus démunis. En revanche, en ce début d'année, les dons aux plus démunis sont repassés devant la recherche. Les vaccins ont avancé et les Français aident maintenant leurs concitoyens qui ne peuvent plus se nourrir ou se vêtir ou boucler leur fin de mois. Mmh. Et par ricochet, ces dons en augmentation irriguent l'ensemble des autres causes parce que les Français ont réalisé qu'il y avait des conséquences dans tous les domaines. Donc ils donnent aussi pour le parrainage d'enfants, le handicap, l'environnement et la protection des animaux.
Quelles sont les structures qui peuvent bénéficier d'un don?
Eh bien, toutes les associations et les fondations peuvent recevoir recevoir un don, mais seules celles qui sont reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique peuvent émettre des reçus fiscaux.
Et je me demandais, qu'est-ce qui est considéré comme un don d'ailleurs? Parce qu'on en parle depuis le début, mais est-ce que c'est uniquement de l'argent?
Alors non, mais il n'y a que les dons en argent qui sont défiscalisables. Ils représentent donc 7,5 milliards d'euros par an. À côté de cela, vous avez le don de temps, le bénévolat. On compte 31 millions de bénévoles par an en France. Et vous avez tout ce qui est dons en nature. La collecte de denrées alimentaires au supermarché, les dons de vêtements, de jouets, les produits d'hygiène. Cela représente l'équivalent de 39,5 millions d'euros par an. Et j'ajoute que les maires et propriétaires de forêts privées ont aussi donné 1000 chênes ces derniers mois pour la restitution de la flèche de Notre-Dame de Paris. Oui. Et d'ailleurs, j'ai appris que pour reconstruire la cathédrale, 340 000 donateurs issus de 150 pays ont déjà donné 833 millions d'euros, un élan de générosité sans précédent dans l'histoire de la philanthropie française.
Alors, je vous écoute et puis c'est vrai que je me dis que certains sont peut-être frileux parce qu'il y a eu par le passé un gros scandale concernant une association de recherche contre le cancer, vous vous en souvenez. Comment est-ce qu'on peut connaître, je dirais, le bien fondé d'une association, pouvoir donner en toute confiance?
Eh bien, les fondations et associations sont aujourd'hui très suivies et très contrôlées par les pouvoirs publics, par l'Inspection Générale des Affaires Sociales et par la Cour des Comptes. Elles ont des obligations légales. Publier leur rapport annuel, contrôle des comptes par un commissaire aux comptes. Donc, avant de donner à une association, ou si vous êtes donateur, vous avez tout à fait le droit de regarder son rapport d'activité et son rapport financier pour voir comment est utilisé l'argent. Et voir aussi si elles ont un label, comme le don en confiance ou le label IDEAS, qui font des audits pour vérifier qu'elles sont bien transparentes et qu'elles gèrent bien tout de manière adéquate.
Voilà, donc en fait, cet événement difficile et douloureux, ce scandale, a permis aujourd'hui un meilleur contrôle des associations. On va se retrouver dans un instant parce qu'on se demande évidemment qu'est-ce que l'on fait de notre don, Armelle Lévy. Ce sera dans un instant. On va s'intéresser aussi à l'air intérieur. Comment le purifier? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut le faire de plus en plus avec la propagation du virus. Et puis après, on se fera un petit sandwich, hein, peut-être au bord d'une rivière, je ne sais pas, ou dans une prairie, ça nous fera du bien. A tout de suite sur RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 10h.
Nous voilà bien sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Il faut aérer. Dans un instant, Hugo Delcourt va nous expliquer comment purifier l'air intérieur de nos maisons et appartements. Ensuite, Sonia Esguillan nous aidera à préparer de bons sandwichs autres que le fameux jambon beurre. Mais pour l'heure, on parle de notre générosité, des dons et de la défiscalisation avec Armelle Lévy.
Donne pour donner.
Les Français sont généreux. Elton John et France Gall, donner pour donner sur RTL. Les Français sont généreux, on l'aura bien compris avec vous, Armelle Lévy. Vous nous avez livré plein d'informations et notamment comment s'assurer effectivement du bien fondé des associations vers lesquelles nous pouvons nous tourner. Comment est-ce qu'on peut savoir maintenant ce qu'elle fera de notre don, cette association?
Alors normalement, votre don est fléché. Si vous donnez pour quelque chose, c'est bien à cette cause que doit aller l'argent que vous avez donné. On appelle ça un don affecté.
D'accord.
Mais par exemple, en 2004, quand s'est produit le tsunami dans l'océan Indien, vous vous souvenez?
Très bien.
Certaines associations ont reçu trop d'argent pour l'aide humanitaire. Elles ont donc rappelé les donateurs pour leur dire que finalement, l'argent servirait à nourrir les enfants en Afrique. Cela en a surpris plus d'un, ils n'avaient pas donné pour cela. En fait, dans un cas comme celui-là, assez rare, l'association a le devoir de vous avertir et de recueillir votre consentement pour réaffecter votre don, mais vous avez toujours le droit de refuser.
Et dans ces cas-là, nous sommes remboursés.
Vous pouvez demander.
D'accord. Par quel moyen peut-on faire un don aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, il y a deux canaux de paiement. Le prélèvement automatique qui représente 44% des montants des dons et les autres, les dons ponctuels qui peuvent se faire en ligne, par téléphone, par SMS, par chèque. Le don en liquide, cela existe encore mais c'est de plus en plus marginal. En tout cas, vous ne pouvez pas envoyer des billets à une association par la poste, c'est interdit. En plus, ça peut se perdre. Vous avez même le denier du culte qui est en train de se numériser. La crise Covid a embarqué toutes les structures dans la numérisation du don de manière colossale.
Est-ce qu'il existe un seuil minimum et maximum pour un don d'argent?
Alors non, il n'y a pas de seuil minimum. Quand vous êtes au supermarché et qu'on vous propose de faire l'arrondi en caisse, un micro-don, vous donnez quelques centimes en plus à une association. En revanche, vous n'aurez pas de reçu fiscal en dessous de 7,62 euros de don. C'est très précis.
Je vois ça.
7,62 euros.
Pourquoi ?
Ne me demandez pas pourquoi,
ah bah
c'est
voilà.
Fixé par l'administration fiscale.
D'accord, ok. Après, il y a un plafond maximum ou pas ?
Alors non, il n'y a pas de plafond maximum. En revanche, si c'est un très 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 gros chèque, 1 million d'euros, l'association va quand même vérifier que ce n'est pas de l'argent sale auprès du service de lutte contre le blanchiment. Elle doit vérifier aussi que ça ne vous met pas en péril, que vous n'avez pas mis des zéros en trop ou vous n'avez pas confondu les euros avec les anciens francs.
En tant qu'affaire.
Mais si tout est bon, hein, elle ne va pas refuser.
Côté impôt, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un plafond?
Alors oui, mais déjà le premier critère, il faut que vous soyez imposable sur le revenu. Ensuite, il y a deux cases.
Ouais.
Lors de la déclaration fiscale, il y en a une qui concerne, c'est l'amendement Coluche, toutes les associations et fondations qui apportent de l'aide aux plus démunis. L'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence. Elle permet de défiscaliser 75% des dons à hauteur de 1 000 euros, c'est le plafond. Au-delà, vous basculez sur une réduction de 66%.
Mais ce plafond des 1 000 euros, c'est nouveau ?
Ah oui, il a été mis en place l'année dernière et prolongé cette année pour permettre aux Français d'être toujours plus généreux. Mmh. Et puis, il y a une deuxième case qui concerne les dons à toutes les autres associations et qui permet de défiscaliser 66% des dons, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Et enfin, si vous êtes à l'ISF, vous pouvez avoir une réduction fiscale uniquement au profit des fondations reconnues d'utilité publique. Alors, je le conçois. La fiscalité, c'est toujours un peu technique et c'est d'ailleurs intéressant de le noter. Les Français sont d'année en année toujours plus généreux. Les dons sont en constante progression, sauf en 2018, où il y a eu une série de réformes fiscales qui a complètement embrouillé les donateurs et embarqué une chute de la générosité. Ce qui veut dire que l'environnement fiscal joue beaucoup et plus on complexifie la fiscalité, plus on perd le donateur et plus ça rejaillit sur la collecte. Donc pour bien comprendre les réductions fiscales liées aux dons, vous pouvez consulter le site infodon.fr. L'infographie est très bien faite. Il recense tous les modes de dons possibles, comment donner en argent, en temps, comment mobiliser votre entreprise, votre entourage, pour pouvoir être encore plus généreux.
En tout cas, vous, en matière de générosité pour les conseils, vous nous en faites preuve tous les samedis matins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Armelle Lévy, est-ce que vous aérez votre logement?
Oui,
vous,
il faut
en ce moment,
surtout en ce moment.
Mais voilà, c'est ça. Et puis je vois, vous baladez avec une bombe.
Spray assainissant.
Vous avez un spray assainissant dans ce studio.
Oui,
voilà, en ce samedi matin. Ben, on va demander à Hugo Delcourt justement ce qu'il en pense, puisqu'il va nous livrer plein de conseils. Ce sera
bonne
dans un
question.
Instant. Salut Armelle.
Bonjour Fanny.
C'est classe,
merci,
on vous accueille. C'est classe, on vous accueille sur les L5.
Oui, je m'y attendais pas.
Eh bien voilà, vous êtes spécialiste du traitement de l'air, on vous a jamais fait cette blague.
Non,
eh bien voilà.
C'est la première.
Il fallait arriver sur RTL en ce samedi matin. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Donc votre spécialité, c'est l'air, un intérieur sain. C'est une arme pour lutter contre la propagation de la Covid, je dis pas de bêtises.
Alors oui, oui, l'air pur est un besoin fondamental, comme la nourriture qu'on mange ou l'eau qu'on boit. Et un air sain, pour être précis, c'est un air dans lequel il y a peu ou pas de polluants, ce qui n'est pas évident étant donné que quasiment toutes nos activités sont génératrices de pollution au sens large. Donc l'objectif, c'est de respirer un air le plus pur possible et donc sans virus forcément.
Alors on s'imagine toujours que l'air de nos logements est de meilleure qualité que l'air extérieur, à tort.
Oui, oui, à tort. Alors je vais mettre un petit peu de nuance là-dessus, on va dire à tort de manière générale. Parce que l'air intérieur, selon les statistiques qu'on peut avoir, c'est qu'il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur.
Ouais.
Ça s'explique forcément parce que l'air pollué intérieur, c'est une accumulation de polluants, parce que forcément, il n'y a pas de brassage de l'air. Et du coup, l'air extérieur, avec les vents réguliers, est forcément meilleur, étant donné que les polluants sont brassés. En revanche, si on habite à côté d'un périphérique ou s'il y a des endroits où la pollution de l'air extérieur est mauvaise, comme lors d'un pic de pollution, c'est pas forcément une solution. Si vous voulez, l'air intérieur peut être plus propre que l'air extérieur, en l'occurrence, dans ce genre de situation.
D'accord, donc tout dépend en fait aussi de notre environnement. Vous parliez des polluants dans nos logements, quels sont-ils en fait ?
Alors, les types de polluants, il y en a plusieurs. Les principaux, c'est les polluants de combustion, c'est-à-dire tout ce qui va venir des cuisines, fours, poêle à bois, la fumée de tabac, etc., qui vont être générateurs de monoxyde de carbone, de formaldéhyde, de ce genre de particules.
Mmh.
Ensuite, on a les polluants biologiques. Là, ce sont les polluants type virus, bactéries, allergènes, les pollens des plantes, l'humidité de l'eau, etc., qui vont favoriser les proliférations d'acariens, de moisissures, de choses comme ça. Et ensuite, on a les polluants chimiques, où là, ça va être lié au bricolage, par exemple, ou au nettoyage, avec des peintures, des colles, des vernis, des produits de nettoyage, de l'eau de Javel, etc., qui vont apporter des particules polluantes.
D'où l'intérêt de faire attention à ces produits ménagers aussi, on l'a déjà traité dans cette émission. Quelles sont les conséquences d'un air intérieur pollué ?
Alors, il y en a beaucoup, notamment sur la santé.
Ah oui.
Déjà, on n'est pas tous égaux au niveau de la pollution de l'air et de ses conséquences. Ceux qui sont principalement impactés, ça va être les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui ont des pathologies respiratoires, forcément. Mmh. Après, ça ne veut pas dire que les autres sont mieux lotis, parce que effectivement, si on travaille en extérieur ou si on fait du sport en ville, par exemple, on va être soumis à des niveaux de particules qui sont tout aussi dangereux. Mmh. Après, au niveau des conséquences physiques, on va dire, ça va créer des maladies respiratoires, comme l'asthme, la toux, des angines, etc., qui sont parfois même chroniques. Après, il y a des maladies cardiovasculaires, des troubles de reproduction et des impacts sur le cerveau. Donc, c'est assez important.
Bon, on a plein de questions à vous poser. Je vais vous les poser dans un instant parce que maintenant que vous nous avez fait ce petit bilan des risques que l'on court à avoir un intérieur pollué, on sait qu'il y a des solutions et vous allez nous les livrer dans un instant pour avoir un intérieur plus sain. On se retrouve tout de suite, Hugo, sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Bon, moi, je trouve qu'en ce moment, bon, certes, la météo varie, on est d'accord, mais on a des envies de pique-nique. Alors, côté cuisine, côté recette, dans un instant, Sonia Esgulian va nous expliquer comment préparer de bons sandwichs un petit peu originaux qui changent un petit peu du saucisson beurre classique qui, néanmoins, est délicieux. Mais pour l'heure, avant de sortir, on va purifier notre air intérieur. Bon, et celle-là, on vous l'a faite déjà, Hugo Delcourt, ou
oui,
pas?
Oui.
Bon, d'accord. Oui. Vous êtes spécialiste du traitement de l'air. On vient d'entendre Mickey 3D sur RTL. Bon, vous nous avez expliqué il y a un instant que c'était essentiel, évidemment, de pouvoir aérer, je dirais, notre logement. On a bien compris, effectivement, qu'il fallait peut-être limiter les sources de pollution intérieure, mais néanmoins, il est toujours important d'assainir l'air. Est-ce que le système d'aération des intérieurs permet quand même de renouveler l'air?
Alors oui, c'est sa fonction principale. Il contribue à l'apport d'air neuf ou au recyclage de l'air à l'intérieur.
Okay.
Après, généralement, ils sont équipés de filtres poussière pour capter les plus grosses particules et trier un peu l'air en amont. Maintenant, je vous dirais, l'idéal, ce serait d'avoir un système de traitement de l'air ou de purification sur les systèmes d'aération qui vont apporter de l'air pour justement avoir cette garantie que l'air apporté est traité et est propre. Il gère de l'air pollué, il va brasser de l'air pollué.
Mais alors, notamment, là, vous parlez de purifier. Est-ce qu'il faut faire appel directement à un purificateur d'air ?
Sur des apports d'air comme ça et des centrales de traitement d'air, oui.
D'accord.
Et à ce moment-là...
Ça passe par quoi ? C'est quoi un purificateur d'air ?
Alors, un purificateur d'air, c'est un dispositif qui permet de capter ou de détruire totalement les polluants présents dans l'air.
Okay.
Le but, c'est de réduire la charge de composants organiques volatiles, ce qu'on appelle les COVS, toutes les particules fines qui sont présentes dans l'air, et de le réduire au maximum pour avoir un air le plus pur possible.
Mais ça se présente comment, ce truc-là ?
Alors, ça dépend. Il y a différentes technologies. On va dire que principalement, dans les purificateurs d'air, il y a deux écoles. Il y a la filtration, qui est le standard du marché, qu'on voit de partout, avec les fameux filtres EPA. Et il y a la destruction, où là, ce sont des technologies où on va aller avoir un effet de destruction totale sur les polluants. En fait, soit on va les capter d'un côté, soit on va les détruire de l'autre.
J'achète un purificateur dans un magasin spécialisé ? Ça se branche ? Comment ? Ça se met comment ? C'est quoi ?
Alors, ça va dépendre. En fait, si vous voulez, il y a différents types. On va avoir des purificateurs plug and play qui vont se mettre dans l'environnement qu'on va brancher et qui vont venir recycler l'air ou aspirer l'air.
Okay.
Après, sinon, on peut avoir des systèmes plus industriels, on va dire, qui vont venir s'installer dans les ventilations pour traiter des bâtiments entiers.
D'accord. Donc, il y a des choses qu'on peut maîtriser et d'autres pas. On est bien d'accord.
C'est ça.
Mais ce purificateur, je peux le mettre dans mon salon, dans ma cuisine, dans une pièce que je vais juger, dans laquelle je passe du temps et qui est susceptible d'être polluée.
Oui.
Ça coûte cher, ces trucs-là ?
Alors, ça va dépendre des purificateurs.
Ouais.
En fait, il y a plusieurs critères de choix avant de passer à l'action, on va dire, c'est que déjà il faut savoir quelle technologie on va prendre, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et après il faut tenir compte du volume à traiter, parce qu'en fonction de la taille de la pièce, il faut prendre un purificateur qui soit dimensionné.
Okay.
Ensuite, les besoins qu'on peut avoir, le niveau de pollution Est-ce qu'il y a beaucoup de polluants pas? Est-ce qu'on est fumeur, par exemple? Ou, enfin, voilà.
Oui, j'entends.
C'est pas le même niveau de pollution que quelqu'un qui est chez lui, qui vit des livres.
En fait, il faut l'adapter, quoi. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est quelle utilisation on en fait? Est-ce que c'est un produit qu'on veut pouvoir déplacer de pièce en pièce?
Okay.
Est-ce que c'est un produit qu'on va laisser? Et voilà.
Mais en fait, quand je vous écoute, je me demande si la solution la plus simple et la plus efficace, c'est pas tout simplement d'ouvrir ses fenêtres. Ça sert à ça, non?
Oui et non. Enfin, je vous dirais que c'est le béaba.
Oui, je suis d'accord.
Du recyclage de l'air. C'est-à-dire que ouvrir ses fenêtres, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire à faire et ce qui est impératif à faire. Parce que, justement, ça va permettre, l'idéal, c'est même de créer des courants d'air pour justement qu'il y ait un brassage de l'air qui soit efficace et qu'on ait un renouvellement de l'air. Après, comme je vous disais tout à l'heure, la limite de ça, c'est la qualité de l'air qu'on importe.
Je comprends.
Et là, ça peut être problématique.
Bah oui, parce qu'en fait, on ne sait jamais combien de temps ouvrir ses fenêtres. Moi, je les ouvre tous les jours, tous les matins. Mais je ne sais jamais si je les ouvre assez longtemps, enfin trop longtemps, je pense. C'est très compliqué, en fait.
Alors, il faut avoir un petit mix entre efficacité et coût énergétique de l'opération.
Ouais.
Parce qu'en hiver, ça peut coûter cher d'ouvrir ses fenêtres pendant une heure.
C'est clair.
Les recommandations générales, c'est de les ouvrir au moins 10 minutes, un quart d'heure par jour. Moi, je vous dirais... Les recommandations qu'on fait, nous, c'est idéalement d'ouvrir et d'aérer systématiquement quand on a des activités polluantes. On cuisine, on fait le ménage, on fume. Là, on ouvre derrière pour renouveler le volume, en fait. C'est de la bonne pratique.
Et l'air conditionné, alors, si c'est la même problématique. C'est-à-dire que si l'air conditionné brasse de l'air qui est pollué...
Exactement. C'est pour ça que les purificateurs sont importants en complément, en fait.
Ouais,
ils peuvent pas remplacer d'ouvrir les fenêtres, faire le ménage chez soi... C'est pas magique, mais il va venir en complément, en fait, parce que lui, il va capter les particules constantes. L'enjeu, si vous voulez, d'un purificateur d'air, c'est de maintenir une qualité d'air, une bonne qualité d'air constante dans le volume, peu importe les apports qu'on peut avoir.
Dites-moi, tout à l'heure, Armelle Lévy, elle est rentrée dans ce studio avec une bombe. Alors, je vais être tout à fait sincère avec vous. C'est censé purifier l'air. Moi, j'ai toujours un doute quand elle vient le samedi matin avec sa bombe purificatrice. Non, mais ça, il faut s'en méfier ou pas? On va lui dire,
alors,
Armelle.
Je ne vais pas prendre parti directement. Je vais me cacher derrière l'USC Que Choisir.
Allez-y.
Qui a sorti une étude.
J'en suis sûre.
Qui dit que les produits comme ça sont plus générateurs de pollution que de... En fait, vous apportez quelque chose dans le volume. Vous apportez des particules. Donc forcément, ça ne peut pas avoir un effet de purification, en fait.
Donc en fait, il faut faire super attention. Mais ça, on va tous le dire à Armelle, parce que c'est vrai que depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'elle fait. Mais en fait, il faut se méfier aussi des promesses aujourd'hui sur les étiquettes.
Oui.
Parce qu'en fait, on pollue plus...
Oui, il faut se méfier aussi des garanties anti-Covid et des choses comme ça.
Voilà, parce qu'en fait, on pollue plus nos intérieurs en mettant des bombes soi-disant purifiantes, anti-bactéries avec des grosses étiquettes. Il faut s'en méfier plus que finalement de s'en servir. Il ne faut pas tomber dans le panneau, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'un spray ou ce genre de produit peut avoir un effet sur des surfaces, mais dans l'air.
Voilà, c'est ça.
Je ne vois pas comment ça peut capter. Ce que disait USC Que Choisir, c'est que tout ce qui était encens, bougies, spray, etc., c'était générateur de plus de particules que de bienfaits, on va dire, en termes de purification.
Méfions-nous. On a bien compris. Donc, ouvrir ses fenêtres 10 minutes à un quart d'heure par jour. L'air conditionné, il faut que ce soit évidemment de l'air le plus pur possible. En revanche, le purificateur d'air peut nous changer la vie. Merci, Hugo Delcourt. Vous avez envie qu'on aille faire un petit pique-nique, vous et moi? On ne se connaît pas, mais ce serait sympa d'aller faire un petit sandwich.
Il faisait beau dernièrement.
Eh bien, justement, on va y aller avec Sonia Esguignon qui nous rejoint dans un instant et qui va nous expliquer comment faire de bons sandwich. Merci beaucoup. À bientôt, Hugo Delcourt. Merci.
Au revoir.
Les sandwichs sont magnifiques, les sandwichs sont beaux. J'aime tous les sandwichs, je n'en ai jamais trop.
Mais c'est fou. En plus, il y a un boom du sandwich là depuis quelques temps. Bonjour Sonia Esguignon.
Bonjour Flavie.
Mais c'est vrai, nos habitudes alimentaires ont changé. Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste depuis un an. On est dans une période un petit peu particulière et c'est vrai que le sandwich, je dirais que ça fait un petit carton, quoi. Comment est-ce qu'on peut expliquer son succès?
Parce que c'est pratique, c'est simple à manger, c'est presque idéal pour le télétravail, bien qu'il faille aussi prendre un peu de repos, quoi. Moi, je suis quand même adepte de prendre un petit moment pour respirer, pour manger vraiment en conscience, quoi. Parce que sinon, si on mange en travaillant et entre deux mails, c'est pas une solution.
Mais ça n'a rien à voir avec le sandwich. Voilà. Je veux dire, on peut manger à toute vitesse et sans être à son assiette, et on peut manger et savourer un sandwich.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, le sandwich, beaucoup de succès parce que c'est extrêmement simple et que on peut le décliner à énormément de pains différents.
Eh ben, c'est génial.
de baguette, le pain de mie, le pain à burger, le buns. Mm-hmm. On peut imaginer tout un tas de sandwichs très variés tout au fil des semaines, et c'est ça qui est très sympa.
Eh ben c'est génial, vous allez nous raconter ça dans un instant, parce que grâce à vous, on va bien comprendre aujourd'hui que le sandwich, même si ça fait partie de la restauration rapide, ce n'est pas forcément de la junk food. Vos recettes, c'est tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Eh bien voilà, moi j'avais envie de me faire un petit sandwich et il y en a un qui est d'accord avec moi, écoutez-le.
C'est si bon. So I say to you.
Voilà, si Thomas Dutronc nous entend, Thomas, viens, on t'invite à prendre un petit sandwich avec Sonia Esguillon, qui est cuisinière, auteure et journaliste. Alors, le sandwich, ce n'est pas forcément de la junk food, il peut même être gourmand et gourmet, Sonia.
Entièrement d'accord, même plus que d'accord. En fait, le sandwich, c'est au même titre qu'une autre recette, une préparation qui mérite beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'on choisit quand même les différents ingrédients. C'est pas un assemblage comme ça, aléatoire d'ingrédients. Et c'est ça aussi qui fait la qualité d'un bon sandwich. Par exemple, ce qui va à l'intérieur correspond au type de pain. C'est pas la même chose si on opte pour un pain, une baguette bien croustillante, ou du bon pain de mie, mais qui reste mou. Donc, on met pas tout à fait les mêmes choses à l'intérieur.
De toute façon, c'est un appel à la créativité. On peut faire plein de trucs complètement différents. On peut tenter plein de choses. Et le sandwich maison, ça change tout. Alors, donc, si je comprends bien, c'est qu'il faut s'adapter à notre pain. Donc, le premier choix, c'est le pain.
Premier choix, c'est le pain. Alors, évidemment, la plupart du temps, c'est le pain qu'on achète. Mais comme il y a eu une folie du pain en confinement, moi, je dis aux gens, par exemple, si vous avez tenté l'aventure du pain, ce qui est chouette, c'est de faire des toutes petites baguettes toutes fines pour faire des sandwichs qui ont, une quinzaine de centimètres de longueur. Et on peut faire ces petites baguettes maison. Ça, c'est très amusant à faire. Et quand on a pratiqué un tout petit peu le pain, c'est assez facile. Mais sinon, aujourd'hui, chez le boulanger, il y a vraiment des pains très différents, avec une mie dense ou une mie plus aérée. Et là, on va choisir, à partir de son pain préféré, ce qu'on va mettre à l'intérieur du sandwich. Alors, on peut choisir un registre très classique. Là, c'est excellent. On choisit une bonne rillette, un bon jambon. On va rajouter également le bon beurre avec quelques cornichons. Ça, c'est top. Si on choisit, par exemple, trois ingrédients très bons et très simples, on fait déjà un excellent sandwich.
Vous parliez du beurre, c'est indispensable. Moi, j'en mets tout le temps.
Mais moi, c'est pire. J'en mets avec les rillettes aussi.
C'est pas vrai. Vous aussi, vous faites ça? Ah bah oui, mais je sais bien. Je sais bien que c'est bon.
Avec les rillettes et tout, le beurre salé.
Je suis normande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Voilà.
Bon. Alors, donc, on met du beurre. On peut mettre effectivement du jambon. On peut mettre un bon sauciflard. On peut mettre plein de bonnes choses.
Là, on est dans le registre un petit peu...
classique, traditionnel.
Voilà. Mais... toujours avec notre baguette, on peut jouer aussi la carte du voyage. Moi, il y a un sandwich que j'aime beaucoup, c'est d'une inspiration vietnamienne, il s'appelle le banh mi. En fait, c'est un sandwich qui a une base avec, par exemple, une viande, mais on n'est pas obligé, on peut mettre aussi des légumes. Moi, je le fais souvent avec un reste de poulet rôti. Et ensuite, je vais ajouter, par exemple, des petits filaments de carottes râpées. Je vais ajouter beaucoup d'herbes aromatiques, de la coriandre, de la menthe, de l'estragon, des petites cébettes que j'ai hachées finement. Je vais ajouter du gingembre. Alors vous imaginez tout ça dans le sandwich. On peut ajouter quelques segments d'orange. Et on va ajouter aussi, pour ceux qui aiment, un tout petit peu une petite sauce forte, une sauce pimentée, avec un petit peu de... Moi, je mélange souvent ça avec un petit peu de yaourt.
Et justement, la sauce, c'est en option, vous parlez là de yaourt?
Ah non. Alors moi, pour moi, la sauce n'est pas du tout en option. C'est le petit truc qui va faire la différence. Alors la sauce, ça peut être très 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 varié. Évidemment, pour certains sandwichs, ce sera la mayonnaise. Pour d'autres, on peut faire un sandwich léger. Par exemple, pour mon fameux petit sandwich que j'aime bien, là, avec le poulet et toutes les herbes aromatiques, moi, je prends un petit peu de yaourt, je mets quelques gouttes d'une sauce pimentée, je mélange le tout et ça fait une sauce qui lie un petit peu tous ces ingrédients et qui apporte justement cette douceur, un petit peu aussi d'humidité. Parce que tout dépend des ingrédients qu'on met à l'intérieur du sandwich. C'est pas mal aussi de mettre des ingrédients qui ramollissent un petit peu le pain aussi.
Oui, ça, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sandwich tout sec. Hein.
Ah oui, ça c'est un peu dur.
Donc c'est apporter un petit peu de tendreté, si je puis dire, donc à notre sandwich. Je pense au sandwich froid, chaud, en fait, ça change quand même quelque chose. Hein.
Ah ben c'est top. Alors quand on n'a pas, moi j'avais il y a quelques temps, j'ai pas de, évidemment, de presse à Panini. Je sais que ça existe. Il y a des gens qui sont fous de, ouais, de certains ustensiles de cuisine. Quand on n'a pas de presse à Panini, moi j'ai une astuce toute simple. Je mets le sandwich, donc qui est plutôt assez plat, dans une poêle et je pose une pierre par dessus. Ça appuie énormément sur le sandwich. Mmh. J'ai un gros galet que j'aime bien, que j'utilise souvent en cuisine pour différentes choses, et je le pose sur ce petit sandwich plat et ça va bien faire dorer le sandwich et surtout, ça va aplatir un peu, écraser les aliments. C'est ce qui est bon aussi dans le panini, c'est que tout est un petit peu lié, un petit peu pressé pour être dégusté après.
En revanche, pour les paninis, il faut faire attention à ce que l'on met dedans. Parce qu'il y a des ingrédients qui ne supportent pas justement d'être cuits.
Bah, la chaleur, c'est un petit peu dommage. Par exemple, on évite les tomates, c'est pas essentiel, mais on peut mettre du jambon cru, on peut mettre de la mozzarella, on peut mettre des lamelles de courgettes. Ça, c'est très très bon. Donc ça, je conseille vraiment de tester en fait le sandwich chaud. Et puis, il y a le sandwich aussi. On peut opter pour des pains un peu différents, comme le pain au lait. C'est délicieux, le pain au lait. On a oublié qu'il y avait des petits sandwichs très tendres au pain au lait. Moi, par exemple, j'aime bien... on met par exemple quelque chose à tartiner. Donc ça peut être par exemple, si on aime la viande, une mousse de foie ou un fromage à tartiner. Et moi ce que j'aime bien, c'est que je prends un champignon de Paris que je vais couper avec la mandoline très 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 finement et je vais rajouter quelques gouttes de sésame. Et ça, je fais ça juste avec un fromage à tartiner qui a un goût un peu presque fade, mais c'est ça que je trouve sympa. Un petit coup de ciboulette et c'est délicieux. C'est très tendre, c'est tout moelleux. Et il y a plein de petits goûts qui arrivent au moment de la dégustation.
Justement, vous parlez du moelleux. Moi, je me pose toujours une question. C'est combien de temps je prépare mes sandwichs à l'avance? Combien de fois je me suis retrouvée en pique-nique avec des sandwichs qui faisaient la tête parce que ça faisait 3 heures qu'ils étaient dans du papier d'alu dans un coin? Comment est-ce qu'on peut bien les conserver avant un pique-nique et combien de temps faut-il les préparer?
Alors, il y a vraiment des sandwichs de voyage et des sandwichs qu'on mange presque à l'instant. Plus le pain est croustillant, etc., et plus la farce est pas trop, comment dire, mouillée, c'est facile de transporter le sandwich. Le grand sandwich que j'adore, moi, c'est le pain bagnat. Et ben, par exemple, ça dure pas non plus des heures et des heures, surtout quand on a un petit peu fait une petite marche avant le pique-nique. Alors moi, j'avais une astuce très simple. Ça demande un tout petit peu d'organisation, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. On prend les pains. On met la farce, alors tous les petits légumes coupés, les tomates, les œufs. Alors je vais avoir l'association de sauvegarde des gens du pain bagnat qui vont me tomber dessus parce que évidemment je mets plein de trucs qui ne sont pas autorisés. Mais bon, on peut mettre tout ce qu'on veut, un peu de thon, une jolie vinaigrette. On met ça dans une petite boîte. Et en fait, quand on arrive sur le lieu du pique-nique, et ben en fait, on va verser la préparation dans le sandwich. On laisse un petit quart d'heure le temps que ça s'imbibe bien et on peut le manger. Parce que si on a laissé le sandwich 3-4 heures, surtout dans du film plastique, franchement, c'est pas super bon, quoi. C'est tout détrempé, c'est pas très facile à manger et on perd tout le plaisir de manger son petit sandwich.
On a trop envie là de filer en cuisine pour faire encore des sandwichs et de faire des achats. Merci beaucoup, Sonia. Vous m'avez ouvert l'appétit, hein, comme régulièrement le samedi matin.
Comme toujours.
Et puis, bon, ce qui m'ouvre l'appétit, c'est d'aller sur votre page Instagram, évidemment, et puis de lire votre nouveau livre, Ma petite cuisine potagère chez Flammarion. Merci beaucoup, Sonia Esgulian, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, on vous fait des bisous, parce que c'est déjà la fin de Nous voilà bien. En attendant de nous retrouver samedi prochain, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur l'appli RTL et les astuces et recettes sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, évidemment, dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.